Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, non-avares d'avatars, altruistes, alter-égoïstes, furieux de fourrures et piqués de pixels. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde curieuse et curatorale sur Fréquence 7 et vous avez bien raison. Si cette amorce capillotractée a comme un air de déjà-vu, c'est normal, puisque aujourd'hui, pour la deuxième fois, on pénètre dans le château d'Aubenas, un château transfiguré, transfigurine même, puisque nous vous proposons, avant la fin de l'exposition « J'ai pleuré devant la fin d'un manga », le 31 mars, la rediffusion de l'entrevue avec les deux commissaires de l'expo que nous avions proposé au mois de novembre, alors que nous n'avions pas encore vu l'expo. Une partie du château qui, jusqu'à la fin du mois de mars, donc, se confond avec la demeure d'un mystérieux habitant, tel Alice au Pays des Merveilles, qui ouvre telle ou telle porte et se retrouve dans des univers baroques, peuplés de personnages foutraques. L'hôte de l'expo est amené à visiter différents mondes peuplés d'avatars, mangas, de chimères magiques et de personnages de contes populaires. Avec les deux invités, on se pose plusieurs questions. De nouvelles émotions vont-elles émerger de cette expérience, comme le laisse suggérer le titre de l'expo « J'ai pleuré devant la fin d'un manga » Qu'est-ce qui résulte de cette porosité entre le monde de l'enfance et celui des adultes, entre les mondes imaginaires et le monde réel ? Mes invités, d'ailleurs, sont-ils bien réels ou sont-ils les avatars de peluches numériques ? Si vous ne comprenez rien à tout ceci, on éclaircit ça avec Félicien Grand-Dénon et Alexis Loisel-Montabeau, les deux commissaires de l'exposition. Mais avant, puisque Clara est à mes côtés, salut Clara.
Salut Sophie.
Et Sylvain, toujours derrière la vitre, salut Sylvain.
Bonjour, bonjour.
L'agenda.
On commence cet agenda avec une soirée ciné-débat sur les mobilités rurales et durables, ce soir à 18h30 à la salle des fêtes de Chambonas, avec le film « Virage vers le futur, alternative à la voiture individuelle ». Un documentaire pour explorer des alternatives concrètes à la voiture individuelle, comme l'autopartage, le vélo, le covoiturage ou les transports collectifs. D'une durée de 55 minutes, le film sera suivi par un temps d'échange animé par l'Alex 07 ainsi qu'un moment convivial. L'Institut Olivier Dossert et l'Association albenacienne des Amis du Patrimoine proposent la conférence Olivier Dossert et le théâtre d'agriculture par Benoît Vidal au cinéma Le Navire à Aubenas demain à 18h. Le théâtre d'agriculture, c'est l'œuvre majeure d'Olivier Dossert. C'est un témoignage sur la façon dont on concevait l'économie rurale dans la France méditerranéenne à la fin du XVIe siècle. La conférence aura lieu au Navire demain à 18h et l'entrée est gratuite. Le collectif citoyen pour la transition écologique au Pays des Vences organise demain à partir de 18h30 au cinéma Vivance une soirée « Les communes, moteurs de la transition écologique ». À 20h, projection du film « Recettes pour un monde meilleur » de Benoît Bringer et d'une table ronde ensuite réunissant des élus et leur retour d'expérience dans leurs différentes communes. L'entrée est libre. Et pour terminer cet agenda, on relaie un appel à participer à l'événement organisé par la LPO Dromardèche samedi au col de l'Escrinée pour manifester de manière originale contre les récentes et nombreuses attaques contre la nature et l'environnement. C'est samedi au col de l'Escrinée de 11h à 13h pour un hommage solennel.
Merci Clara, on passe à la musique.
Depuis
tomber sur ma peau. Tu m'as dit Jojo, vas-y piano. Είσαι μεφυσμένο ακόμα. Σου είπα ρε από τη Δευτέρα. Πρώτη πάντα όλες οι νύχτες. Κουρασμένος με τις κοπέλες. J'ai jeté mon téléphone à l'eau. Attrapé par les griffes d'un oiseau. Il a pris les nuages en photo. Disparu au milieu d'un halo. J'ai pleuré devant la fin d'un manga. Tel chagrin soudé, Aïdé Maguin. Elle essayait de me joindre via réseau. Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô. J'avais tout misé sur ma peau. Tu m'as dit Jojo, vas-y piano.
Ouais. Tout est long. Tout est long.
C'était Joanne Papa Constantino avec Lundi, issu de l'EP Contre-jour. C'était en 2019 déjà. Et je ne sais pas si vous avez entendu, la phrase était sibylline, comme dans le jeu sur RTL à l'époque où il fallait retrouver des mots dans une chanson avec des petits ding-ding. Et là, la phrase à extraire de ce morceau était bien « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». Puisque c'est le titre du deuxième chapitre de l'une des trois nouvelles expositions qui seront présentées au château à Aubenas à partir du 16 novembre, « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». Deuxième chapitre, puisqu'il y en a eu un précédent, un premier, présenté à l'École municipale des beaux-arts de Gennevilliers. Première en son genre au sein des institutions françaises, rien que ça, nous dit le communiqué de presse, le dossier de presse. Alors on va se demander pourquoi et en quoi c'est une première. Avec nos deux invités, Félicien Grand-Dénon, rebonjour Félicien.
Rebonjour.
Et Alexis Loisel-Montembeau.
Bonjour.
Heureux Alexis. Alors, première question. Quelle était la commande de départ de cette exposition ?
Alors, la commande de départ, on pourrait dire que c'était une discussion avec Lionel Balloin, qui était le directeur de l'École municipale des beaux-arts de Gennevilliers, qui est également un centre d'art contemporain, qui partait de l'observation que d'année en année, il recevait de plus en plus de dossiers de futurs étudiants de l'école, qui donc se préparent aux écoles de beaux-arts, avec une très forte inspiration manga, voire des portfolios faits uniquement d'illustrations manga. Et initialement, des dossiers qui étaient mis de côté, comme vu trop illustratifs, pas assez dans le champ de l'art contemporain, vu le phénomène que ça prenait, d'année en année, il s'est dit, il y a quelque chose de générationnel qu'on ne peut plus ignorer. Et donc ces dossiers ont été reconsidérés, et les futurs étudiants, étudiantes, pour certains étaient donc à intégrer l'école. Et donc Lionel Balloin, en discutant avec lui et connaissant nos sensibilités, nous a invités à concevoir une exposition qui viendrait s'intéresser à l'influence des mangas dans les pratiques contemporaines du champ de l'art contemporain.
Parce qu'un des premiers constats qu'on a pu faire en travaillant sur cette exposition, et c'est pour ça qu'il y a cette phrase dans le communiqué de presse, c'est que la culture manga animée porte toujours un stigmate qui est présent depuis son apparition en France, vers les années 80, et le Club Dorothée, et la fin du Club Dorothée. Et ce stigmate porte aussi à le présenter comme un genre plutôt mineur dans la création culturelle, dans notre rapport empathique et intellectuel qu'on peut porter sur ce média, et qui donc finit par le reléguer à des expositions qui seraient plus de l'ordre de l'historique ou de présenter des pages de manga comme étant seulement un objet de format de BD, de comic, et qui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, avec les recherches qu'on a menées avec Alexis, n'ont pas encore été intégrés dans les canons de l'art contemporain, en tout cas dans les centres d'art, dans les musées. Même si, historiquement, on a des artistes en France qui ont déjà travaillé avec ces esthétiques et que nous, on pouvait voir évoluer de plus en plus avec des gens d'autres générations qui, sans peut-être le représenter d'une manière littérale, esthétique, intégrer ces personnages de fiction comme, premièrement, une vraie influence esthétique et culturelle, mais également comme des sortes d'esprits qui habitent leur vie de tous les jours, leur rapport social, leur rapport de communauté. Et on voulait vraiment donner ces lettres de noblesse, d'une certaine manière, et ce qu'on essaie aussi un peu de faire au château, à une culture, un média qui a toute sa place, en fait, dans l'espace muséal ou l'espace du centre d'art.
Alors, on va y revenir. J'entends dans ce que tu dis aussi une part donnée aux émotions, aux émotions que, aux nouvelles émotions peut-être que ça peut provoquer, ce type de création, ce type d'art. Mais avant, pour qu'on comprenne bien, donc il y a eu un premier chapitre, et là, donc, j'allais dire rebelote, mais non, pas rebelote, c'est un deuxième chapitre, avec quoi ? C'est des œuvres toutes différentes, il y a certaines œuvres qui ont déjà été présentées, ou en fait vous recréez un nouveau parcours. Qu'est-ce que vous allez présenter au château ?
Alors, effectivement, on les a conçus comme deux chapitres distincts mais complémentaires, puisque de l'exposition que vous pourrez voir à Aubenas au château, il y a seulement deux artistes qui étaient présents dans la première exposition, à Gennevilliers, premier chapitre. Mais les typologies d'espace étant extrêmement différentes, on était sur une typologie à Gennevilliers dite « white cube », donc vraiment un espace blanc, qui est celui classique attendu de l'art contemporain, alors qu'au château, il y a ces espaces incroyables, vraiment historiques, de charge de l'histoire aussi. Les espaces que occuperont l'exposition sont ceux en particulier des salons 18e, et également la partie médiévale, du donjon. Et donc effectivement, il fallait entièrement repenser une deuxième exposition, une autre itération, avec donc des nouvelles œuvres produites pour l'occasion, puisque les typologies d'espace, comment les artistes se sont appropriés ces lieux, cette histoire, fait qu'elles ont repensé et créé des œuvres qui ont été donc coproduites, financées pour certaines par le Centre d'art contemporain du château.
Ce sont toutes des créations ? Elles n'ont jamais été proposées ?
Alors c'est un mélange, il y a des œuvres qui sont effectivement empruntées, qui ne sont pas donc des nouvelles œuvres produites, mais on a dans l'exposition plusieurs coproductions avec le château d'Aubenas, qui donc seront présentées pour la première fois au sein de cette exposition.
C'est ça, sur les 7 artistes de l'exposition, il y a 3 artistes qui ont conçu vraiment des nouvelles productions.
Donc c'est vraiment... extrêmement excitant.
Bah, c'est très excitant, et surtout de les découvrir sur place pour la première fois lors du montage, c'est quelque chose d'assez fort.
Et il faut s'imaginer effectivement, en termes de médium d'œuvres, une très grande variété, puisqu'il y a à la fois des installations vidéo, des sculptures, des œuvres textiles, des œuvres en réalité virtuelle. Et donc il y a des œuvres qui ont dû être repensées, réadaptées. Elles étaient préexistantes, mais on peut dire que c'est une nouvelle version pour le château.
Ça, c'est d'ailleurs une dimension qui est assez intéressante. Donc vous êtes, j'allais dire un duo de commissaires. Vous avez déjà réalisé d'autres choses avant. Et vous pointez le fait que ce qui est très important pour vous, c'est le multisensoriel, justement. Et en préparant cette émission, je suis tombée sur un extrait de complètement autre chose, mais qui m'intéresse. J'aimerais vous le faire entendre, justement, le multisensoriel comme avec un lien avec la porosité entre différents mondes. On écoute tout de suite Charles Stepanov, qui est anthropologue, notamment anthropologue des mondes sibériens, et qui décrit quand cette manière, quand un chaman souhaite s'adresser à une montagne. Alors on l'écoute, il est au micro de Pierre-Edouard Deldic, c'était ce dimanche dans l'émission Idées de RFI.
Mais on ne s'adresse pas à une montagne comme on discute entre nous actuellement.
Bien sûr.
Il faut s'adapter. Donc il y a des adaptations, il y a de l'innovation communicationnelle. Donc il va y avoir, ça va être multisensoriel déjà. Il y a des fumigations, on fait brûler du genévrier, une plante odorante. On fait des libations, c'est-à-dire qu'on projette vers la montagne du lait, du thé. On peut jeter dans le feu de la nourriture, c'est gustatif aussi. On ne parle pas comme on parle habituellement, donc on chante. On a des rimes à travers les paroles, ce sont des paroles très poétiques, très charnelles finalement, imagées. Donc on mobilise une communication à travers tous les sens, l'olfactif, auditif, tactile, gustatif, pour essayer d'établir un contact, il y a une adaptation.
Charles Stepanov, alors est-ce que par le multisensoriel, est-ce que c'est par ça qu'on entre en contact avec d'autres mondes ? Est-ce que ça vous parle ?
Oui.
Alexis ?
En tout cas, ça me parle effectivement beaucoup. C'est des discussions qu'on a en permanence avec Félicien pour repenser l'expérience que vont avoir les personnes qui vont rentrer dans les expositions, qui vont lire les textes, cette complémentarité, en tout cas tous ces petits paramètres qui ne sont pas forcément immédiatement perceptibles, mais il y en a qui sont plus inconscients et qui vont en tout cas créer un sentiment global ou des changements de sentiment au cours de l'exposition. Et effectivement, quand on parle de multisensorialité, comme c'était dit dans l'interview qu'on a entendu, il y a cette complémentarité. On attend effectivement peut-être, quand on va dans une exposition d'art contemporain, quelque chose de très visuel, principalement, et ça passe sûrement d'abord par là. Mais il y a également toutes ces petites choses qui vont faire qu'on va se mettre dans une ambiance, une atmosphère. Et il était clair, quand on a fait la première visite du château avec Victor Secrétan, le directeur du Centre d'art qui nous a invités pour faire l'exposition, qu'il y avait cette charge de l'histoire aussi du château de Benin. Quand on rentre dans les salons 18e, les parquets grincent, les voix résonnent, sont absorbées d'une certaine manière. On va rentrer dans la partie médiévale. Il va d'un seul coup, il va y avoir un côté beaucoup plus minéral. Changements de température des pièces, il y a une des tours qui sera la chambre de l'avatar Nantes de Pomerol, du mystérieux habitant du château, où il fait beaucoup plus chaud. On se sent beaucoup plus dans un cocon. Et donc tous ces petits paramètres et également la partie d'odeur. Qui ne sont, encore une fois, c'est vrai que c'est des sens sur lesquels on a même moins de mots pour en parler, qui relèvent de choses extrêmement primales, très extrêmement anciennes, mais qui, bien sûr, catalysent toute la perception qu'on aura de cette expérience totale de l'exposition.
Et par cette question d'immersibilité, être capable d'habiter un lieu d'une manière qui n'est pas de l'ordre de juste montrer des œuvres dans un espace, mais de trouver une synchronicité, permet aussi de projeter des émotions plus fortes en termes d'empathie, de connexion, afin de ne pas créer une distance entre les visiteuses et l'espace du château et l'exposition. Le but, c'est vraiment de se sentir plein en visitant l'exposition et d'accompagner cette expérience comme quelque chose de plus naturel, de plus immersif et de moins effrayant ou peut-être parfois dans les expositions d'art contemporain un peu trop...
conceptuel.
C'est ça.
Ouais.
Pour nous, c'est vraiment cette approche sensorielle permet une ouverture à partir du moment où on est touché d'un point de vue émotionnel. Et quand on dit émotionnel, ça ne veut pas forcément dire être quelque chose d'immédiatement plaisant ou beau. Parfois, ça passe justement par des zones plus floues, plus incertaines, ou voire d'inconfort, parfois. Qui créer une potentialité pour être plus apte à connecter des idées entre elles, à ce que finalement ça émerge des personnes qui visitent ça sensibilise, plutôt que d'avoir des textes ou des choses qui peuvent être trop explicites ou noyer les visiteurs dans trop d'informations.
Est-ce que c'est pas simplement revenir un petit peu quand même à la base de l'art, qui est quand même une expérience esthétique au sens très global, effectivement, qui met en mouvement tout ce qu'il y a de plus profond en nous, sans forcément passer par quelque chose de résonant. Je sais pas, Félicien.
Ouais, je trouve cette question intéressante, parce que j'ai toujours pensé l'espace muséal ou du centre d'art comme un espace hors du temps, un peu comme aller au cinéma. C'est les moments où je pense que tout le monde a des vies différentes, avec des problématiques différentes et des poids différents, et que des espaces, l'espace d'exposition, l'espace où on a accès à l'art, devrait être une sorte de petite poche, un monde à part entière, qui dans notre journée, dans notre semaine, est une respiration. Et je pense que c'est aussi une manière dont on a pensé l'exposition, c'est de le penser comme une respiration en dehors du temps et en découvrant de nouveaux mondes, et qui nous permet d'une certaine manière de nous échapper pendant un court instant, un court moment, mais de donner le droit d'avoir des expériences sans se poser de questions, sans être trop connecté à l'hyperinformation, comme aujourd'hui où on est tout le temps très connecté, et on espère vraiment, en tout cas avec l'exposition avec Alexis, que ça permette d'avoir cette parenthèse émotionnelle, empathique, intellectuelle, qui n'est peut-être pas obligatoirement de l'ordre d'apprécier, mais de vivre quelque chose.
Alors, vous dites, un moment comme suspendu, déconnecté, et en même temps, ce que vous présentez, les œuvres que vous allez présenter sont complètement, hyper contemporaines, hyper dans l'immédiateté. Alors, comment on instaure un moment hors du temps avec du super contemporain?
Eh bien ça, effectivement, c'était un des enjeux, des questions qu'on se posait quand on concevait l'exposition, puisque, comme tu l'as dit, les artistes qu'on a invités, donc les 7 artistes, sont nés entre 1980 et 1991. Donc c'est des œuvres qui sont hyper contemporaines, les plus anciennes ont 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des œuvres qui ont été terminées, qui sont en train d'être terminées. Et les équipes sont en train de travailler dessus vraiment avec un travail collectif incroyable pour faire naître ce projet, et donc ça va jouer vraiment sur cette ambiguïté temporelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on conçoit des œuvres hyper contemporaines dans un environnement qui est déjà très chargé d'histoire et donc qui est porteur d'un imaginaire déjà lui-même, on va. Et c'est ce jeu de l'exposition « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». C'est vraiment cette ambiguïté temporelle, ce décalage concret, petit à petit, de salle en salle, qui sont comme rentrés dans différents mondes, capsules, et qui font aussi qu'il y a sûrement des flous dans les émotions ressenties, petit à petit, entre le mignon, le kawaii japonais, et la forme d'étrangeté qui peut émerger, qui fait aussi écho au passage du temps, puisque finalement c'est des personnages avec lesquels on grandit, qui viennent soit des mangas, soit des contes populaires, ou de fables avec des chimères magiques, et qui nous ont vieilli et eux non, et l'exposition est aussi c'est un rapport empathique concret avec ces personnages, et c'est ce qu'on dit des fictions, qui en fait, à partir du moment où on se projette dans ces mondes, on fait naître des nouvelles idées, on s'autorise, c'est une nouvelle manière, à exister ou à projeter des désirs. Petit à petit, avec une sorte d'effet papillon, on essaye de mettre en place dans nos vies finalement cette porosité entre la fiction et le réel.
Dit le réel, parce que finalement fiction, elle ensemence le réel tout le temps.
C'est une expérience totale.
Qu'est-ce que le manga pour vous spécifiquement apporte? Qu'est-ce qu'il crée, alors peut-être pour vous personnellement, je sais pas, qu'est-ce qu'il crée comme comme on parlait d'émotions ou au-delà même des émotions, qu'est-ce qui crée en vous le manga?
Alors, c'est une question...
Vous avez 5 heures. Sylvain, tu avais prévu d'aller manger?
C'est une question très profonde, et je pense un des constats des deux chapitres de l'exposition, c'est la puissance de la pop culture et de la fiction, qui sont souvent vus comme des éléments issus de culture commerciale ou mondialisée, et qu'on sous-estime la capacité d'adaptation de ces cultures et de ces médias-là. C'est-à-dire qu'un manga peut résonner avec moi, alors que je ne suis pas japonais, je ne suis pas né dans la culture japonaise, et pourtant, je peux l'adapter à des situations de vie qui sont les miennes, des émotions que je vais retrouver en miroir avec des gens que je côtoie. Et à travers ce média, m'ouvrir, parfois peut-être me donner des clés de compréhension ou de manière subconsciente, me faire comprendre d'autres choses. Donc bien sûr que j'ai une appréciation, en tout cas personnellement, de l'ordre de l'esthétique, de l'histoire, enfin d'une fiction comme lire un bon livre, un bon roman, mais il y a aussi quelque chose qui va connecter profondément en nous. En tout cas, je pense que pour notre génération, Alexis pourra parler, on a grandi avec Tamagotchi, avec des objets issus de cette culture qui sont une sorte de petits animaux qu'on va élever dans des petites montres électroniques et auxquelles on va projeter des émotions. On va être triste quand ces personnages meurent, on va être triste, on va être content quand ces personnages grandissent, quand ils sont heureux. Et il y a quelque chose de, même si cette culture, et ça je pense qu'on parle pour toute la fiction, mais spécifiquement pour le manga, même si ça peut paraître étranger, même si c'est une esthétique différente, il y a une telle force pour s'introduire dans nos cadres de vie, qu'ils soient de communauté, personnel, culturel. Par exemple, dans le premier chapitre, on avait une artiste qui, en lisant un manga, avait tellement connecté émotionnellement avec cette œuvre que c'était devenu une sorte de figure tutélaire de son rapport familial et émotionnel. Et c'est pour ça, le manga résonne comme ça, en tout cas pour moi, comme des œuvres qui, sous plein de formes différentes, vont se lier à ma mémoire personnelle, à mon expérience intime.
Mais tu le disais un petit peu, c'est un peu le propre de toutes les fictions. Enfin, je veux dire, si on relit aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si on relit Madame Bovary, par exemple, et qu'on le relit encore aujourd'hui, je ne vis pas au 19e siècle, je ne suis pas... Ou toi, peut-être, tu n'es pas une femme, tu ne vis pas au 19e siècle, tu ne rencontres pas ces problèmes. Et pourtant, ou alors, si on lit Proust, on se dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» Et pourtant, on est là. Donc cette capacité... Et juste, tu parlais de Tamagotchi. En fait, ce qui est quand même assez incroyable dans cette culture japonaise, je viens d'apprendre qu'il y avait des petites pierres maintenant. C'est même plus des Tamagotchi qui bipent quand il faut les sortir ou prendre soin d'eux. Ce sont des pierres avec des yeux, et ces yeux qui nous regardent, et en fait les gens achètent ces pierres pour prendre soin de ces pierres. C'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable dans notre capacité à projeter sur l'autre, dans l'autre, c'est vraiment l'empathie dont tu parles, des émotions, et donc de se sentir responsable de ces personnes. Je digresse, mais Alexis, peut-être tu veux...
Non, mais peut-être pour ce que tu disais par rapport à Madame Bovary, on est dans une temporalité qui n'est plus la nôtre, mais en tout cas qui nous... Peut-être qu'il confirme dans l'idée que on a une vision en Occident, une vision très linéaire du temps, et typiquement construire des histoires. Ça fait partie de ces choses où on arrive dans une vision beaucoup plus non linéaire, cyclique, finalement, et qui est aussi le reflet de l'époque dans laquelle on vit, où on est en permanence sollicité par différents médiums, par différentes communautés entre le monde dit physique et plus numérique, et qui viennent brouiller nos perceptions. Et c'est des visions du monde qui résonnent avec, par exemple, dans l'exposition, l'artiste Tianzhou Chen, qui est chinois, et qui va, lui, dans ses œuvres, intégrer des éléments de la culture bouddhiste, avec cette idée du troisième œil qui donne accès à un autre monde. Et cette vision cyclique du temps est extrêmement présente. Et c'est peut-être un des liens entre créer des fictions, créer des personnages et un rapport presque spirituel à partir du moment où on crée des communautés qui nous relient entre des individus, et qui a un rapport qui est presque de l'ordre de la croyance, qui se crée peu à peu, avec, on peut faire un de ces parallèles, par exemple, sur ce don d'ubiquité entre les personnages des nouvelles technologies et le divin, dans des formes de spiritualité, et qui font qu'on s'entremêle des choses qui font écho à l'histoire de l'humanité, et des choses qui peuvent être vues comme très, très classiques, comme la pop culture.
Ouais. Des temporalités, des espaces qui s'entrechoquent et qui s'entremêlent. C'est... Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à tous les deux, Alexis et Félicien, d'être venus sur ce plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle donc cette exposition à aller voir. Ce sera à partir du 16 novembre au château d'Aubenas. C'est J'ai pleuré devant la fin d'un manga. Il y aura deux autres expositions également, celle de Vanessa Winship, Une route sans fin, expo de photos, et puis Il mer froid dans une rouge clairière, avec, c'est une exposition créée par Victor Secrétan, et à noter qu'il y a plusieurs œuvres qui ont été réalisées par les artistes sur le territoire dans le cadre de... du projet sur le sentier des Lauzes à Saint-Mélanie. Voilà, donc tout ça à partir du 16 novembre. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était la rediffusion de L'Onde Curieuse du 7 novembre. Les expositions, elles, sont à découvrir jusqu'au 31 mars au château d'Aubenas. Et nous sommes à découvrir 24 heures sur 24 avec la meilleure des playlists. Et à 15h, le Telex. À 17h, la rediffusion de cette Onde Curieuse. Et à 18h, la collective. Bien sûr, vous pouvez réécouter et télécharger, même si vous êtes vraiment addict, toutes ces émissions sur notre site internet fréquence7.net. Ciao.